Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Fußball bedeutet für mich schon sehr, sehr viel, dadurch, dass ich es geschafft habe, mein Hobby zum Beruf zu machen.
Bonjour à tous. Le foot est féminin cet été. Le mondial 2019 séduit même les plus réfractaires, y compris dans les pays les plus connus pour leur approche virile et stéréotypée de ce sport, l'Italie pour la nommer. C'est pourtant là, à Milan, qu'est né historiquement le football féminin. À l'époque, c'est-à-dire en 1930, les femmes jouaient en jupe longue. Aujourd'hui, 7 millions de spectateurs sont au rendez-vous pour les matchs de l'équipe nationale et on en attend encore plus pour les quarts de finale qui opposeront samedi l'Italie aux Pays-Bas. Mais le foot féminin a encore du mal à s'imposer. C'est le reportage à Milan de Franceline Beretti.
Milan, Inter, Juventus, Roma, Fiorentina. Depuis quelques années, les grands clubs italiens ont tous leur équipe féminine. Mais le foot amateur n'est pas en reste. À Cesano Boscone, dans la banlieue ouest de Milan, le club local cherche à créer une nouvelle équipe pour le championnat régional, la Promozione. Plusieurs rencontres sont organisées pour la sélection. Ce soir-là, elles sont une vingtaine de filles. Elles s'affrontent en deux équipes, dans la chaleur de juin, devant quelques rares parents. La plus jeune a 15 ans, la plus âgée, 36. La plupart d'entre elles font du foot depuis toute petite. Elles ont souvent le même parcours que Laura, 19 ans.
C'ero l'unica ragazza.
J'étais la seule fille. Dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué, je n'ai jamais rencontré une autre fille. Je m'entraînais avec les garçons, mais pour les matchs, je venais aussi et je restais sur le banc. Je ne dis pas que j'étais exclue, tout ça, mais bon, j'étais pas bien vue, j'étais une fille. Certains entraîneurs m'ont même dit explicitement qu'ils ne me faisaient pas jouer parce que j'étais une fille. Je pouvais faire l'entraînement, mais pas les matchs.
Des femmes en crampons, le ballon au pied, ça n'est toujours pas une évidence en Italie. Roberta, la doyenne des joueuses, voit pourtant une réelle évolution. Cette juriste, mère de deux enfants, a toujours été passionnée de foot, mais son enthousiasme était mal accepté.
Maintenant, heureusement, le foot féminin prend plus de place, on le voit aussi avec le mondial. Mais avant, ça n'était pas comme ça. Pour jouer, il fallait aller avec les hommes, les garçons. C'est une bonne chose, ce changement. Espérons qu'à l'avenir, on ne proposera pas aux petites filles de faire seulement de la danse ou de l'athlétisme, mais aussi du foot, et qu'elles ne seront pas vues comme des garçons manqués, comme on m'a toujours vue, moi.
Les premières Italiennes qui ont combattu les préjugés étaient justement des Milanaises. En 1933, en plein fascisme donc, quelques sportives mettent une annonce dans un journal pour créer une équipe. Leur initiative est très mal perçue. Giovanni Di Salvo a consacré un livre à ces éclaireuses. Il rappelle tous les prétextes invoqués pour les empêcher de jouer.
D'abord, certains ont essayé de les arrêter en prétendant qu'il y avait un problème physique. Cette pratique menaçait soi-disant la fécondité. Puis il y a eu l'église, même si ces femmes jouent en jupe longue, à la différence de ce qui se faisait déjà dans d'autres pays où elles jouent en caleçon long. Pas de match en public, pas de compétition, elles ne pouvaient pas jouer de match où on comptait les buts. Toute une série de contraintes tellement restrictives qu'à la fin, bah bien sûr, ces femmes ne pouvaient pas jouer au football.
Cette première équipe féminine s'arrête au bout d'un an. Pourtant, ces femmes ne se considèrent pas comme des rebelles, au contraire.
Au début, en fait, elles se considéraient comme des fascistes exemplaires, car le sport était très important pour le fascisme, l'éducation physique, l'hygiène personnelle. Ensuite, clairement, ça aurait été bien pour elles de pouvoir jouer contre une autre équipe et ne pas rester à jouer entre elles, sans que personne ne les voie. Il était là ce désir, cette volonté de pouvoir aussi se confronter à d'autres joueuses.
En gros, le désir de compétition, désir inacceptable pour des footballeuses. Pourtant, sous le fascisme, les femmes font du basket, de l'athlétisme, de la natation en compétition. Mais le foot, rien à faire, c'est différent, rappelle Giovanni Di Salvo.
L'homme est la figure principale du fascisme, l'homme fort, héroïque, combattant pour la patrie, tandis que la femme est l'ange protecteur du foyer, donc les femmes devaient rester au second plan. Et comme le football est le sport masculin par excellence, les femmes risquaient de menacer cette primauté masculine.
Le sport masculin par excellence. Ça change très lentement dans les mentalités. Après la première équipe à Milan, en 1933, d'autres équipes sont créées, après la Seconde Guerre mondiale, à Trieste, à Rome. Mais le premier championnat n'apparaît qu'en 1968. Avant, les équipes naissent et disparaissent vite. Les structures sont précaires, les joueuses rares. Les filles de Cesano Boscone, elles, ont bien l'intention de faire durer leur histoire.
Et en Espagne, le football a conquis ses lettres de noblesse grâce à la vague féministe qui a saisi le pays bien avant le mondial. Les Espagnols se sont passionnés pour des compétitions féminines avec le soutien d'un des plus grands groupes médiatiques du pays. Les explications de François Musso.
Le 17 mars dernier, dans le stade de football Wanda, à l'ouest de Madrid, 60 739 spectateurs assistaient au match entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Au niveau des clubs, jamais une telle assistance n'avait existé dans le monde. Ce n'est pas un hasard que ce record survienne en Espagne. Ici, le football féminin se développe à la vitesse de l'éclair. En partie parce qu'un grand groupe de communication, Mediapro, a fait un pari médiatique et commercial sur ce sport. Si bien que dans les premières pages des quotidiens sportifs ou dans les journaux télévisés, on est renseigné sur l'actualité de ce sport, les championnats, le marché des transferts, les analyses des équipes. Mais si ce groupe de communication a fait un tel pari, c'est aussi parce qu'il mesure la force de la vague féministe en Espagne. Le 8 mars dernier, les marches y étaient les plus nourries au monde. Le débrayage a eu lieu dans une grande partie des secteurs d'activité. La mobilisation n'a pas eu d'équivalent dans le monde, comme ce fut le cas le 8 mars 2018. Les joueuses de football espagnoles sont en première ligne. Beaucoup d'entre elles revendiquent en public l'égalité salariale, la présence de femmes dans les conseils d'administration. Elles expriment aussi la honte des assassinats d'épouses chaque année aux mains de leur mari, 47 l'an dernier. La réussite et le succès du foot féminin, c'est aussi une clameur contre le machisme. D'ailleurs, hormis le parti d'extrême droite Vox, les autres formations politiques adoptent dans leur programme les revendications féministes. Toutes disent que le football, la grande passion nationale, en est la meilleure vitrine. C'est le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, qui le dit. Le jour où les footballeuses feront jeu égal avec les hommes en termes de considération et de gloire, alors l'égalité des sexes sera très avancée.
Et les questions de genre et ces clichés, c'est bien sûr un des grands sujets de débat autour du football féminin. L'ancienne joueuse internationale de football Melissa Plaza en a fait une thèse, puis un livre intitulé « Pas pour les filles » aux éditions Robert Laffont. Elle y dénonce les petites phrases perfides comme « Elle n'a pas fait un très bon match, mais on s'en fout, elle est jolie ». Melissa Plaza était récemment l'invitée de Jean-François Cadet dans l'émission « Vous m'en direz des nouvelles » sur RFI, on l'écoute.
Ça commence déjà par l'exclusion dans la cour de l'école. Moi, j'étais la seule fille à vouloir jouer au foot, mais j'étais très souvent au départ exclue. Et puis, à force effectivement de démonstration et d'insistance, j'ai réussi à faire mes preuves et à avoir le droit, ne serait-ce que de pouvoir jouer avec eux. Mais c'est vrai que j'ai très souvent entendu l'expression « garçon manqué ». Quand on nous dit « garçon manqué », on veut simplement nous signifier qu'on fait pas ce qu'on attend de nous en tant que fille ou en tant que femme. C'est-à-dire qu'on s'affranchit des diktats de la féminité, avec un certain zèle aussi. Et puis ça nous rappelle simplement la hiérarchie qui existe aujourd'hui entre les sexes, c'est-à-dire que quand vous êtes un garçon manqué, vous êtes un peu mieux qu'une fille, mais vous êtes quand même pas tout à fait un garçon, donc vous occupez en fait la seconde marche du podium. En fait, quand j'entends certaines joueuses prendre la parole dans les médias et se justifier tout de suite qu'elles restent femmes, qu'elles restent féminines, j'entends là encore les injonctions à la féminité qui leur sont faites, c'est-à-dire qu'elles ont le droit de jouer au foot à condition qu'elles restent femmes, à condition qu'elles ne se masculinisent pas trop, qu'elles ne deviennent pas lesbiennes, etc., etc. Et donc, en fait, ça revient à la même chose, c'est-à-dire on les traitait de garçons manqués étant petites, donc elles vont tout faire pour nous faire croire ou nous faire voir qu'elles sont avant tout des femmes, et c'est dommage.
Pas pour les filles de Melissa Plaza aux éditions Robert Laffont. La réforme de l'assurance chômage, elle est en route en France. Elle entrera en vigueur en novembre prochain. Objectif, économiser 3,4 milliards d'euros. Il faudra donc travailler plus pour commencer à toucher des indemnités chômage. Et ces indemnités seront désormais plafonnées. Doit-on en conclure que les Français sont malmenés par rapport à leurs voisins européens? Pas vraiment, comme va nous l'expliquer Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors tout d'abord, peut-on vraiment comparer la générosité des régimes d'allocation chômage en Europe ?
Ce n'est pas simple, car il faut prendre en compte beaucoup de paramètres. Les conditions d'octroi des indemnités, le montant de ces indemnités, leur plafonnement ou encore leur durée de versement. Seul le Royaume-Uni applique un système forfaitaire pur dont le montant ne dépend que de l'âge. Quel que soit leur salaire précédent, les Britanniques de plus de 25 ans perçoivent pendant 6 mois maximum 82 euros par semaine et les moins de 25 ans 65 euros. Bref, jamais plus de 360 euros par mois, le reste étant du domaine des assurances privées. Cela dit, si cette allocation est la seule ressource du bénéficiaire, ce dernier pourra obtenir d'autres aides. Partout ailleurs, on applique la notion de taux de remplacement du salaire. En France, la réforme ne remet pas en cause les règles précédentes. Le taux d'indemnisation pratiqué en France variant de 75% du salaire brut pour les bas salaires à 57% à partir de 2000 euros mensuels. La France compense plutôt moins bien que pas mal de pays. À commencer par le Danemark qui remplace le salaire net à 90% et c'est un peu inférieur aux compensations offertes en Suède, aux Pays-Bas, en Suisse et même en Espagne. Tous ces pays remplacent le salaire brut entre 70 et 80%, mais parfois de façon dégressive.
Justement, la France vient de rétablir la dégressivité des allocations pour les hauts salaires.
Oui, pour les 10% de salaires les plus élevés, ceux qui gagnent un peu plus de 4 500 euros mensuels, les allocations seront diminuées de 30% à compter du 7e mois d'indemnisation. En Europe, plusieurs pays appliquent une dégressivité générale des allocations. Quant à l'Italie, elle applique désormais une très forte dégressivité puisque le taux de remplacement passe progressivement de 75 à 12% seulement en 2 ans.
Et combien de temps faut-il avoir travaillé, Daniel, pour avoir droit au chômage ?
La nouvelle réforme durcit les conditions d'ouverture des droits au chômage en France. Alors qu'il fallait avoir travaillé et donc cotisé au moins 4 mois sur une période de 28 mois pour bénéficier d'une durée équivalente d'allocation chômage, les salariés français vont devoir travailler 6 mois sur 24 mois. Des conditions similaires à celles de la Finlande, tandis que l'Italie exige des conditions bien moindres, 3 mois sur 4 ans. Dans tous les autres pays, les conditions d'octroi sont beaucoup plus dures, souvent d'un an de cotisation sur les 24 derniers mois, comme en Allemagne, en Suisse ou au Portugal.
Et qu'en est-il des durées d'indemnisation ?
En France, cette durée est égale à celle de la durée de cotisation jusqu'à 24 mois pour les moins de 53 ans, de 30 mois de 53 à 55 ans et de 36 mois au-delà de 55 ans. En Allemagne, comme au Danemark et désormais en Italie, où le Job Act de Matteo Renzi a amélioré sur ce point la situation des chômeurs, l'indemnisation est aussi de 2 ans maximum. Partout ailleurs, c'est moins.
Alors soyons clairs, quel est le montant maximal de l'allocation chômage ?
Les hauts salaires français bénéficient encore d'un plafond très élevé d'allocation de 7 700 euros mensuels bruts. Mais c'est bientôt fini puisque la réforme va ramener ce plafond à 4 500 euros. À la seule exception des Suisses qui peuvent toucher jusqu'à 10 800 euros par mois, cela reste encore bien supérieur au plafond de tous les autres pays. Il est de 2 800 euros en Allemagne, de 2 500 au Danemark, de 1 900 en Suède, de 1 700 en Belgique et seulement de 1 400 euros au maximum en Espagne et de 1 300 euros en Italie.
Conclusion, Daniel, le système français reste généreux ?
Incontestablement, oui, même s'il l'est un peu moins qu'auparavant. Les chômeurs français restent plus favorisés que leurs voisins, notamment en termes de durée d'indemnisation et de conditions d'octroi des allocations.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Elles sont désormais incontournables, ces petites baies bleu-noir dans le rayon fruits et légumes du supermarché ou chez le primeur. Le marché de la myrtille connaît un vrai boom en Europe et face aux producteurs traditionnels comme la Pologne, le sud du continent a pris le relais. Au Portugal, dans une exploitation agricole, un jeune informaticien entrepreneur a mis au point un objet connecté baptisé Stouk qui permet d'économiser jusqu'à 40% d'eau grâce à une irrigation goutte à goutte, géré par des capteurs. C'est le reportage dans le massif central portugais près de Covilhã, signé Marilyn Darcy.
Victor Nunes s'en remet à San Pedro, Saint-Pierre, le saint patron de la pluie au Portugal, alors que les averses ont fait fuir les cueilleurs de myrtilles. Sur le domaine d'Azrazas, près de Covilhã, Victor Nunes cultive 3 hectares en production durable. Victor Nunes, diplômé en gestion, a changé de vie en 2012 pour se lancer dans la culture des baies foncées.
On cultive 6 variétés différentes. On commence par récolter la variété Douc, la plus plantée au monde. Sur ces arbustes, on a déjà fait 4 passages. Les fruits ne mûrissent pas tous en même temps. Il faudra 3 semaines.
Victor Nunes teste la technologie Stock mise au point par la société Agroup, dont le but est d'améliorer les rendements en contrôlant mieux l'hydrométrie. Les plantations sont irriguées et cette technologie renseigne sur les besoins en eau des myrtilliers. Le système Stock, conçu par Bruno Portella, est un hardware de 40 cm dissimulé au pied des myrtilles. Bruno Portella, concepteur du système.
Stock recueille 5 types d'informations différentes. Les températures et l'humidité de l'air, l'humidité dans le sol à différents niveaux des racines des plantes, les radiations solaires et la température près de la plante. 5 paramètres pour un seul appareil. Le système est autonome grâce à son panneau solaire. Il n'a pas besoin de batterie et de fil. Il est très facile à installer et sa simplicité provient de la complexité de sa conception.
Le Stock envoie des données recueillies par les capteurs sur un cloud, un nuage informatique que recueille ensuite l'agriculteur. Pour Victor Nunes, pas besoin de connaissances particulières.
Je reçois sur mon portable la température de l'air, l'humidité, l'évaporation, le niveau d'eau, celui de l'arrosage. Et un critère que j'utilise beaucoup qui concerne l'humidité du sol. C'est un graphique et là, si on regarde bien, on voit que la courbe remonte à la fin. C'est à cause de la pluie qui tombe. Donc là, je sais que je n'aurai pas besoin d'irriguer pendant 2 ou 3 jours.
L'agriculteur peut programmer à distance le système de mélange d'eau et de fertilisant pour alimenter l'irrigation goutte à goutte au pied des myrtilliers. Pas besoin de se déplacer et une véritable économie en eau.
Je sens bien la différence, mais j'ai un peu de mal à la quantifier, car ce n'est que tout récemment que j'ai installé un compteur d'eau spécifique. Mais je sais que je dépense moins d'eau. Surtout, je suis bien plus tranquille, je sais exactement ce que je dois utiliser, et ainsi, je n'abîme pas mes plantes.
Designer de formation, rien ne prédisposait Bruno Portella à se lancer dans l'aventure technologique. C'est en observant une plante d'appartement à laquelle il avait associé une sonde d'humidité qu'il s'est intéressé à l'irrigation agricole. Bruno a pris le temps de comprendre les besoins réels des agriculteurs et son modèle technologique se révèle versatile, adapté et peu onéreux.
Nous sommes partis de l'idée qu'il fallait élaborer un système qui puisse être installé par l'agriculteur lui-même, quelque chose d'intuitif. Il a donc fallu élaborer une suite de procédures, de simplifications. Résultat, pas besoin d'envoyer un technicien sur le terrain et l'entretien est infime. Tout ceci permet de réduire les coûts pour notre entreprise et donc pour le produit final. C'est un système adaptable et comme c'est pas cher, eh bien, on peut en avoir plusieurs sur le terrain.
Bruno Portella est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de 10 personnes. Son Stock est bien implanté au Portugal et il s'exporte dans de nombreux pays. Les systèmes sont actuellement assemblés en Chine, mais le seront bientôt au Portugal. Quant au succès du Stock, il repose sur une capacité réelle à communiquer. Bruno Portella.
On s'est basé sur notre partenariat avec Victor. Nous avons contacté des associations de producteurs pour qu'ils installent notre système pour une période gratuite, pour pouvoir valider la technologie, la réceptivité du marché et établir les prix. Notre stratégie est d'avoir un agriculteur de référence qui fonctionne comme un faiseur d'opinion, qui peut influencer les autres agriculteurs ou leur montrer que la technologie fonctionne.
Avec la fin des averses, les cueilleurs reprennent leur travail. Cidalia Guerrero, qui profite de la saison des myrtilles pour améliorer ses revenus, considère qu'il faut vivre avec son temps.
Moi, je trouve très bien de relier l'agriculture à la technologie. Il faut évoluer avec son temps. Ça permet de réduire les pesticides et de mieux protéger les plantes. Et surtout ici, ça permet d'arroser seulement en cas de besoin, car on gaspille beaucoup d'eau dans la région.
Quant au futur du Stock, Bruno Portella est confiant. Son entreprise Agroup a obtenu en 4 ans 1,5 million d'euros par le biais d'un crowdfunding et a bénéficié d'aides européennes.
Un reportage réalisé avec le soutien de la Direction de l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission européenne. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast Accent d'Europe. À très bientôt.